Chapitre 4. Le cristal. 1. Jake de New York se tient dans l'un des corridors supérieurs du grand hall de Gilead. C'est davantage un château, ici dans la verte contrée, qu'une maison du maire. Il regarde autour de lui et aperçoit Eddie et Susanna ouvrant de grands yeux près d'une tapisserie murale, leurs mains entrelacées. Susanna est debout. Elle a de nouveau des jambes, du moins pour le moment, et à la place de ses orthopèdes, comme elle les appelle, elle porte une paire d'escarpins rubis qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux que porte Dorothy quand elle pose le pied sur sa version de la grande route pour se mettre en quête du magicien d'Oz, ce bidonneur. Elle a des jambes parce que je rêve, se dit Jake, qui sait très bien que ce n'est pas un rêve. En baissant les yeux, il découvre Otte qui lève vers lui ses yeux cerclés d'or, son regard anxieux et intelligent. Il est toujours chaussé des bottillons rouges. Jake se penche et lui caresse la tête. La sensation sous ses doigts de la fourrure du bafouilleux est claire et nette. Une réalité. Non, il ne rêve pas. Jake prend soudain conscience de l'absence de Roland. Ils ne sont plus que quatre. Il s'aperçoit aussi d'autre chose. L'atmosphère de ce corridor est légèrement teintée de rose et de petits halos de même couleur auréolent les drôles d'ampoules à l'ancienne qui illuminent le couloir. Quelque chose est sur le point de se passer, quelque intrigue va se dérouler sous leurs yeux. Et à présent, comme s'il avait suffi d'y penser pour les mettre en branle, le garçon entend des pas qui se rapprochent. « Je connais cette histoire, » se dit Jake. « On me l'a déjà racontée. » Au moment où Roland apparaît au coin du couloir, Jake se souvient de quel épisode il s'agit. Celui où Martin Largecape arrête Roland au passage alors qu'il se rend sur le toit pour y débusquer un brin de fraîcheur. « Hey, fiston !» va dire Martin. « Entre ! Entre ! Ne reste pas dans le couloir, ta mère veut te parler !» Mais bien entendu, ce n'est pas la vérité. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais. Le temps aura beau faire, se décaler et se courber autant qu'il veut. Ce que Martin désire, c'est que le garçon voie sa mère et comprenne que Gabrielle de Skane est devenue la maîtresse du magicien de son père. Martin veut obliger le garçon, piqué au vif, à devancer l'appel et à affronter l'épreuve initiatique de virilité en l'absence de son père qui ne pourra ainsi s'y opposer. Il entend ainsi se débarrasser du chiot avant qu'il ne lui pousse des crocs et qu'il ne le morde. Maintenant, ils vont assister à tout cela. Cette triste comédie suivra son triste cours prédéterminé sous leurs yeux. « Je suis trop jeune, » songe Jake, mais évidemment qu'il ne l'est pas. Roland n'aura que 3 ans de plus que lui à son arrivée à Mégis avec ses amis. Et quand il rencontrera Suzanne sur la grande route. Seulement 3 ans de plus quand il l'aimera. Seulement 3 ans de plus quand il la perdra à jamais. Je m'en fous, je veux pas voir ça. Et il ne le verra pas, comprend-il, tandis que Roland s'approche. Tout ça est déjà arrivé. Car on n'est pas en août au temps de la pleine terre, mais à la fin de l'automne ou à l'entrée de l'hiver. Il le déduit du poncho que porte Roland, un souvenir de son séjour dans l'arc extérieur et au nuage de vapeur qui lui sort de la bouche et du nez à chacune de ses expirations. Il n'y a pas de chauffage central à Gilead et il y fait froid. Il y a d'autres signes de changement. Roland porte à présent les gros revolvers qui sont son patrimoine, ceux à la crosse en bois de santal. Son père les lui a transmis pendant le banquet. Songe Jake, qui ne sait pas d'où lui vient cette certitude. Et le visage de Roland, aux traits toujours enfantins, n'est plus celui ouvert et non encore éprouvé du jeune garçon qui musardait dans ce même couloir 5 mois plus tôt. Le jeune garçon, piégé par Martin, en avait connu des vertes et des pas mûres depuis, son combat contre Cort étant l'une des moindres. Jake voit aussi autre chose. L'apprenti pistolero est chaussé des bottes de cow-boy rouges. Il ne le sait cependant pas, parce que tout cela ne se produit pas en réalité. Et en même temps si, pourtant. Il se trouve à l'intérieur du cristal du magicien, au cœur de la tornade rose, Ces halos roses qui auréolent les appliques rappellent à Jake les chutes des molosses et leur arc lunaire dans la brume qui s'en élevait. Et tout cela se reproduit encore une fois.
Roland ?
C'est Eddie qui le hèle depuis l'endroit où il se tient avec Susanna, près de la tapisserie. Susanna hoquette et lui presse l'épaule pour la faire taire. Mais Eddie passe outre cette recommandation.
« Non, Roland, ne fais pas ça, mauvaise idée. »«
Oh, oh, oh,
Chape ôté. Roland les ignore l'un et l'autre et passe devant Jake à le toucher, mais sans le voir. Pour Roland, botte rouge ou pas, ils ne sont pas là. Ce cas-tête est encore loin dans son avenir. Il s'arrête devant une porte un peu avant le bout du couloir, hésite, puis lève le poing et frappe. Eddie s'élance dans sa direction sans lâcher la main de Susanna. On dirait presque maintenant qu'il la traîne après lui.
« Suis-nous, Jake, » dit Eddie.
« Non, j'ai pas envie. »
« Que t'aies envie ou pas, c'est pas ça le problème et tu le sais très bien. On est censé voir. Si on peut pas l'arrêter, on peut faire au moins ce qu'on est venu faire ici. Allez, viens maintenant. » Le cœur lourd de terreur, l'estomac noué, Jake obtempère. Alors qu'il s'approche de Roland, les revolvers paraissent énormes posés sur ses hanches minces, et son visage encore lisse mais déjà là donne à Jake comme une envie de pleurer. Celui-ci frappe à nouveau.
Hé, pas là, mon chou ! Lui crie Susanna. Elle est pas là, ou bien elle veut pas te répondre, et que ce soit l'un ou l'autre, c'est du pareil au même pour toi. Laisse tomber, elle en vaut pas la peine. C'est pas parce que c'est ta mère qu'elle en vaut la peine. Va-t'en !
Mais il ne l'entend pas et ne s'en va pas non plus. À l'instant où Jake, Eddie, Susanna et Otte le rejoignent incognito, Roland tourne la poignée de la porte de l'appartement de sa mère. Elle n'est pas verrouillée. Il l'ouvre, découvrant la pièce plongée dans la pénombre. Elle est tondue de soie. Sur le sol, un tapis semblable au tapis de Turquie cher au cœur de la mère de Jake, sauf que ce tapis-là, Jake le sait, vient de la province de Cachamine. Tout au fond du salon, près d'une fenêtre dont on a tiré les volets contre les vents d'hiver, Jake aperçoit un fauteuil à dossier bas, et sait aussitôt que c'est celui où elle se trouvait le jour où Roland a subi son épreuve initiatique, celui dans lequel elle était assise le jour où son fils a remarqué sur son cou la morsure d'amour. Le fauteuil est vide à présent. Mais le pistolero pénètre plus avant dans la pièce et tourne les yeux vers la chambre à coucher de l'appartement. Jake remarque alors une paire de chaussures, noires et non rouges, dépassant des tentures qui flanquent de part et d'autre la fenêtre au volet tiré.
« Roland !»
hurle-t-il.
« Roland, les tentures ! Il y a quelqu'un derrière ! Attention !»
Mais Roland ne l'entend pas.
« Mère ?»
appelle-t-il de cette voix que Jake reconnaîtrait entre mille, même si celle-ci est une version magiquement fraîche. Jeune, pas encore rendue rauque par tant d'années de poussière, de vent et de fumée de cigarettes.
« Mère ? C'est Roland. Il faut que je vous parle. »
Toujours pas de réponse. Il franchit le court vestibule qui mène à la chambre. Si une partie de Jake veut rester dans le salon, foncer sur cette tenture et la tirer, il sait que ce n'est pas ainsi que les choses sont censées se dérouler. Même s'il faisait une tentative, il doute de l'excellence du résultat. Sa main passerait probablement au travers comme celle d'un fantôme.
« Venez, » dit Eddie, « ne le laissons pas seul. »
Ils avancent groupés, ce qui aurait pu paraître comique en d'autres circonstances, mais pas dans celle-ci où il s'agit de trois personnes s'inquiétant désespérément d'un de leurs amis. Roland fixe le lit contre le mur gauche de la chambre. Il le fixe comme hypnotisé. Peut-être essaie-t-il de s'imaginer Martin et sa mère étendues là. Peut-être se souvient-il de Susanna, avec laquelle il n'a jamais couché dans un lit digne de ce nom, encore moins dans une telle débauche de luxe sous un baldaquin. Jake entrevoit vaguement le profil du pistolero dans le miroir à trois faces d'une alcôve à l'opposé de la chambre. Ce triple miroir est celui d'une petite table que Jake reconnaît pour avoir vu sa mère s'installer devant, la même que dans la chambre de ses parents. Une coiffeuse. Le pistolero se secoue, éloignant de son esprit les pensées, quelles qu'elles soient, qui l'ont accaparé. Au pied, il porte ses terribles bottes. Dans ce demi-jour, on dirait celle d'un homme qui vient de traverser un fleuve de sang.
« Mère !»
Il fait un pas en direction du lit, puis se penche un peu, comme s'il croyait qu'elle pût se cacher dessous. Si elle se cache quelque part, ce n'est en tout cas pas là. Les souliers que Jake a repérés sous la tenture étaient des chaussures de femme, et la silhouette qui se tient maintenant à l'extrémité du petit vestibule, juste à l'entrée de la chambre, est vêtue d'une robe. Jake aperçoit la ganse qui l'ourle, mais il voit bien au-delà. Jake comprend la relation trouble que Roland entretient avec sa mère et son père, mieux qu'Eddie et Susanna ne le pourraient jamais. Et cela parce que les parents de Jake leur ressemblent particulièrement. Elmer Chambers est un pistolero pour le Network, et Megan Chambers a une très longue histoire de coucherie avec des amis malsains. On n'en a jamais soufflé mot à Jake, mais il est au courant, d'une façon ou d'une autre. Il a partagé le kef avec son père et sa mère, et il sait bien ce qu'il sait. Il sait aussi quelque chose à propos de Roland. Que ce dernier a vu sa mère dans le cristal du magicien. Gabriel Descaine, à peine de retour de sa retraite à Débaria, Gabriel qui confesserait à son époux ses fautes en pensée et en action à l'issue du banquet, implorant qu'il lui pardonne et lui rouvre sa couche, et qui, pendant que Steven somnolerait après leur étreinte, lui plongerait le couteau empoisonné dans le cœur, ou se contenterait peut-être de lui égratigner le bras de la pointe sans l'éveiller. Avec un couteau pareil, ça reviendrait au même. Roland avait tout vu dans le cristal avant de remettre le maudit objet à son père. Et Roland avait mis son holà. Pour sauver la vie de Steven Descaine, aurait estimé Eddie, Susanna et Eddie, s'ils avaient pu voir jusque-là. Mais seul Jake, possédant la sagesse du malheur des enfants malheureux, peut voir jusque-là. Pour sauver la vie de sa mère, aussi bien. Pour lui donner une dernière chance de recouvrer la raison, une dernière chance de se tenir aux côtés de son mari et de lui être fidèle, une dernière chance de se repentir de Martin Larskip. Bien sûr qu'elle va le faire, bien sûr qu'elle le doit. Roland se souvient de son visage de ce jour-là, de la tristesse qu'il exprimait. Bien sûr qu'elle doit le faire. Bien sûr que c'est impossible qu'elle ait choisi le magicien de son plein gré. S'il pouvait seulement lui dessiller les yeux. Ainsi, sans prendre garde qu'il a une fois encore sombré dans la non-sagesse de l'extrême jeunesse, Roland ne peut saisir que le chagrin et la honte sont souvent impuissants contre le désir. Il est venu parler à sa mère, la supplier de revenir à son mari avant qu'il ne soit trop tard. Il l'avait une fois déjà sauvée d'elle-même, elle le lui dira. Mais il ne peut pas recommencer. Et si elle ne marche pas, se dit Jack, ou même ne se laisse pas démonter en prétendant qu'elle ne sait pas de quoi il parle, il lui donnera le choix. Quitter Gilead avec son air, maintenant, ce soir, ou bien être jeté au fer demain matin et, pour prix de son insigne trahison, être pendu à coup sûr, haut et court, comme Axe, le maître que l'avait été. « Mère ? » appelle-t-il donc, sans apercevoir encore la silhouette qui se dissimule dans l'ombre derrière lui. Il avance encore d'un pas dans la chambre, et maintenant la silhouette se déplace. Elle lève les mains, elle tient quelque chose. Pas une arme à feu, ça Jake peut le jurer, n'empêche que ça évoque un danger mortel, quelque chose de serpentin.
« Attention, Roland !»
s'écrie Susanna d'une voix perçante qui fait office d'interrupteur électrique comme par magie. Quelque chose se trouve sur la table de la coiffeuse. Le cristal, bien entendu. Gabriel l'a volé. C'est le cadeau de consolation qu'elle compte faire à son amant pour l'assassinat que son fils l'a empêché de commettre, qui s'illumine soudain comme s'il répondait à la voix de Susanna. Il éclabousse de sa brillante lumière rose le triple miroir qui la réfléchit et la projette dans la chambre. Grâce à cet éclairage dans la glace à trois faces, Roland aperçoit enfin la silhouette dans son dos.
« Nom de Dieu !»
gueulait Didine, horrifiée.
« Ah, merde, Roland, c'est pas ta mère !»
Ça n'est pas même une femme, pas vraiment, plus du tout. C'est une sorte de cadavre ambulant affublé d'une robe noire, crotté par la poussière des routes. Il ne lui reste plus que quelques touffes de cheveux se battant en duel sur la tête et un trou béant à la place du nez. Mais ses yeux lancent toujours des flammes et le serpent qu'elle tient se tortille entre ses mains, fort vivace. Malgré la profonde horreur qu'il éprouve, Jake a le temps de se demander si elle l'a capturé sous le même rocher où elle avait trouvé celui que Roland a tué. C'est Rhea qui guettait le pistolero dans l'appartement de sa mère. C'est celle de Chaos, venue non seulement récupérer son glam, mais aussi en finir avec le garçon qui lui avait causé tant de tourments.
« Ta putain de gueuse a eu son compte !»
s'écrie-t-elle d'une voix suraiguë plus que jamais caquetante.
« Attends tort de payer !»
Mais Roland l'a vu. Dans le cristal, il l'a vu, Rhea, trahie par cela même qu'elle était venue reprendre. Et maintenant, le pistolero pirouette en laissant tomber sur ses nouveaux revolvers ses mains animées d'une vivacité mortelle. Il a 14 ans. Ses réflexes n'ont jamais été si précis ni si rapides. Et il se déchaîne comme un baril de poudre qui explose.
« Non, Roland, fais pas ça !»
hurle Susanna.
« C'est un piège, un glam !»
Jake a juste le temps de détourner les yeux du miroir et de les reporter vers la femme qui se tient sur le seuil de la chambre. Juste le temps de comprendre que lui aussi est tombé dans le panneau. Peut-être que Roland comprend également la vérité à la toute dernière seconde, que la femme postée sur le seuil est en réalité sa mère, malgré tout, qu'elle ne tient pas en main un serpent mais une ceinture, quelque chose qu'elle lui destine, peut-être bien en gage de réconciliation, que le cristal lui a menti de la seule manière qui lui est possible, par reflet interposé. De toute façon, il est trop tard. Les revolvers dégainés tonnent avec un double éclair jaune vif qui illumine la chambre. Il appuie deux fois de suite sur la détente de chacun avant de pouvoir s'arrêter. Et les quatre balles projettent Gabriel Descaines dans le vestibule, son sourire plein d'espoir et, si on faisait la paix, pas encore effacé sur ses lèvres. Ainsi meurt-elle. Souriante. Roland demeure immobile, les canons de ses revolvers fumant, le visage figé en une grimace de surprise horrifiée, prenant à peine conscience en vérité du poids qu'il va traîner le reste de sa vie. Il s'est servi des armes de son père pour tuer sa mère. À présent, un rire caquetant emplit la chambre, mais Roland ne se retourne pas. Il reste pétrifié près de la femme en robe bleue et souliers noirs qui gît ensanglantée dans le vestibule de son appartement. La femme qu'il est venu sauver et qu'au lieu de ça, il a tuée. Elle est étendue avec la ceinture tissée de ses blanches mains, drapant son ventre qui saigne. Jake se retourne pour Roland et n'est pas surpris de voir une femme à face verte et coiffée d'un chapeau noir pointu flotter dans le cristal. C'est la méchante sorcière de l'Est, et c'est aussi Rhea du Chaos. Elle dévisage le garçon, revolver en main, et découvre ses dents pour le sourire le plus atroce que Jake ait jamais vu.
« J'ai brûlé cette idiote que tu aimais, si fait brûler vive, et maintenant j'ai fait de toi un matricide. Alors tu te repens d'avoir tué mon serpent, pistolero ?»
« Mon pauvre, mon doux Hermat!
Est-ce que tu regrettes d'avoir joué une rude partie avec quelqu'un de plus finaud que toi, toi qui ne le seras jamais de toute ta misérable vie ?»
Il ne marque par aucun signe qu'il l'entend, gardant les yeux fixés sur Dame, sa mère. Bientôt, il ira jusqu'à elle, s'agenouillera, mais pas encore. Pas encore. Le visage dans le cristal se tourne maintenant vers nos trois pèlerins, et ce faisant, il se transforme, devient vieux, chauve et détruit. Devient en fait le visage que Roland a vu dans le miroir menteur. Si le pistolero a été incapable d'apercevoir ses futurs amis, Rhea, elle, les voit. Si fait, elle les voit même fort bien.
« Abdiquer !»
croise-t-elle, tel un corbeau posé sur une branche effeuillée sous un ciel bas hivernal.
« Abdiquez ! Renoncez à la tour !»«
Jamais, espèce de salope !» dit Eddie.
« Vous voyez qui il est, quel monstre il fait, et ce n'est qu'un début, sachez-le, demandez-lui donc ce qu'il est advenu de Cuthbert et d'Alain. Alain, malgré son intelligence du Shining, n'en a point réchappé en fin de compte, pour sûr. Demandez-lui donc ce qu'il est advenu de Jimmy de Curry. Il n'a jamais eu d'amis qui n'ait point tué, ni jamais eu d'amoureuse qui ne soit plus que poussière dans le vent.
« Passe ton chemin !» dit Susanna. « Et laisse-nous aller le nôtre !»
Les lèvres vertes et crevassées de Réa se tordent en un horrible rictus.
« Il a tué sa propre mère !» « Que crois-tu qu'il te fera à toi, garce stupide à la peau brune ?»«
Il ne l'a pas tué !» l'interrompt Jake. « C'est toi qui l'as tué ! Allez, oust !»
Jake fait un pas en direction du cristal, bien déterminé à s'en emparer et à le fracasser sur le sol. Et il peut le faire, il s'en aperçoit, car le cristal est bien réel. C'est la seule chose dans sa vision à l'être. Mais avant qu'il ait pu mettre la main dessus, la boule émet une explosion silencieuse de lumière rose. Jake se protège le visage des mains pour éviter d'être aveuglé, et alors il se met à fondre. Ah, je fonds, quel monde, ah, quel monde ! À tomber, aspiré vers le bas par la tornade rose, hors du pays d'Oz et retour au Kansas, hors du pays d'Oz et retour...